y en a. Pourquoi Jésus a-t-il commencé sa vie apostolique à 30 ans? À cette époque-là, normalement, c'était l'âge où les hommes commençaient leur carrière propre. C'est ce qu'on m'a dit. Un bon exégète. C'est une opinion. C'est assez normal. Et pour nous, ça semble curieux, surtout étant donné ce que Jésus pouvait faire. D'attendre de fait 30 ans, 30 années avec sa mère et 3 ans avec les apôtres, ça semble complètement disproportionné. Et d'autre part, c'est peut-être très bon. Et c'est peut-être cela qu'en définitive, Dieu veut nous faire comprendre. Il a consacré 30 ans à sa mère parce que c'était celle qui était la bonne terre et qu'on pouvait le mieux recevoir sa parole et que sa parole en Marie pourrait pleinement fructifier. Je crois que c'est la vraie raison. Alors l'autre raison est seconde, puisque Jésus n'est pas dépendant des coutumes et des mœurs des pays. Il l'a montré avec suffisamment de force quand il a enseigné à 12 ans. C'était pas la coutume que les enfants de 12 ans enseignent les docteurs de la loi. C'était d'autre part la coutume, alors là, très nettement, c'est à partir de 12 ans que les enfants accompagnaient leurs parents à Jérusalem pour la Pâque, pas avant. Et là, Jésus a suivi la coutume. Et là, c'est pour ça qu'il y a constamment une manière de suivre les coutumes pour demeurer caché et une manière de vivre en dépendance totale de l'Esprit Saint et qui fait quelque chose de très particulier. Alors vous pouvez facilement discerner ce qui vient directement de l'Esprit Saint. Chasser les vendeurs du temple, ça c'est pas non plus un geste coutumier. C'est pour ça qu'on lui demande quelle est ton autorité. Et Jésus ne donne pas de signe pour montrer son autorité. Alors je crois que ce qu'il faut dire, c'est qu'il a voulu consacrer le plus de temps qu'il pouvait à Marie, parce qu'elle était celle qui pouvait le mieux profiter de sa parole et faire que la parole de Jésus puisse vraiment en elle porter tous ses fruits. Et voyez, ce que Jésus a donné à sa mère et donné à Jean, il nous est donné. Il ne faut jamais l'oublier. De sorte qu'il n'aurait donné que 5 ans à sa mère. Il n'aurait que 5 ans donné à Jean. Et 5 ans donné à lui. Tandis que là, il a tout donné à Marie. Je crois vraiment que la plénitude de grâce de Marie n'a cessé d'augmenter et de grandir jusqu'au terme de sa vie. Et pour que sa grâce ne cesse d'augmenter jusqu'à la fin de sa vie, il fallait justement qu'elle reçoive en plénitude la parole de Jésus. Jésus a communiqué à Marie tout ce qu'il pouvait lui communiquer. Et je crois que Marie a terminé sa vie. On en dira un mot. Elle a terminé sa vie au moment où elle avait une plénitude de grâce toute semblable à celle de Jésus. Alors, peut-on dire que grâce à l'intervention de Marie à Cana, les disciples eurent des... Les disciples entrent déjà dans l'heure. Oui, poser. Vous pouvez le poser entre vous, c'est évident, ça fait un excellent sujet de conversation édifiant. Mais s'il y a des questions vraiment importantes, posez-les. Je n'aime jamais qu'une session ou une retraite, on parte avec des questions et on les pose à n'importe qui. Vous voyez, je vous parle très librement. Alors, répondez très librement. Parce que je crois que c'est la seule manière de faire de la vraie théologie, tu vois. C'est d'essayer de creuser l'écriture. Vous savez bien, la théologie est née comme cela. Chez les pères de l'Église. L'image très belle du silex qu'on frotte sur le silex, d'où jaillit une flamme, d'où jaillit le feu. Et le silex est frotté sur le silex quand, de fait, dans l'écriture, on trouve certaines choses qu'on ne comprend pas. Mais cette affirmation de Marie et de l'écriture à l'Annonciation. Marie fiancée à Joseph. Et Marie à l'ange dit, je ne connais point d'homme. Là, les pères de l'Église ont frotté le silex. Comment se fait-il que Marie est dite fiancée à Joseph? Il est celui qu'elle a choisi, ou que Joseph a choisi. Ils sont fiancés. Fiancé veut dire, dans les termes bibliques, marié. Mais s'ils ne vivaient pas encore ensemble, comme c'était la coutume, on était fiancés. Et on attendait le moment où on pouvait vivre ensemble, et on vivait chacun dans sa famille, ne vivait pas encore ensemble. Mais, donc je ne connais point d'homme. Le terme connaître dans l'écriture prend un sens particulier, c'est-à-dire on n'a pas encore eu de relation ensemble. Mais ça pouvait simplement indiquer que, étant fiancée à Joseph, elle aurait de Joseph un fils extraordinaire qui serait fils de Dieu. Marie révèle à l'ange qu'elle a promis à Dieu d'être totalement donnée à Dieu. C'est comme ça que le père de l'Église, et que l'Église dans sa liturgie, a fêté la présentation de Marie au temple. À cause de ça, aujourd'hui on essaie d'expliquer ça de d'autres façons, mais on n'y arrive pas. Il y a une sorte de contradiction, si vous voulez. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un secret de Marie à l'égard de Dieu. Et que Marie s'est consacrée totalement à Dieu, donc officiellement, elle est fiancée à Joseph. Et puis profondément, elle est donnée à Dieu. C'est ce qu'Albert le Grand, en commentant ce passage, dit. Elle s'est consacrée entièrement à Dieu, si tel est le bon plaisir de Dieu. Donc elle s'est consacrée sous condition, dans l'abandon complet. Mais c'est à partir de ce texte-là que, de fait, toute la tradition a compris que Marie s'était consacrée à Dieu, qu'elle a rencontré Joseph, ou plus exactement que Joseph l'a demandé pour être son épouse, et que Marie a révélé à Joseph son secret totalement consacré à Dieu, et qu'elle ne voulait que le bon plaisir de Dieu, et que Joseph a accepté. Et je crois que c'est vraiment cela. C'est que ce explique comment, quand Joseph a vu que Marie attendait un enfant, Joseph n'a pas du tout jugé Marie. Il l'aimait trop. Il savait très bien sa fidélité. Mais Joseph s'est considéré comme mis en dehors du plan de Dieu sur Marie. Et c'est ça qui était pour lui le très gros sacrifice. Il s'est retiré. On comprend très bien ça. Et c'est l'ange qui lui a dit, prends chez toi Marie, ta fiancée. Alors, je continue avec vous ce soir. Et puis, s'il y a des questions, vous les notez et au début de chaque conférence, on pourra répondre. Vous voyez donc que Cana montre la coopération de Marie dans la vie apostolique de Jésus. Elle est médiatrice par rapport à son peuple. Et c'est elle qui demande à Jésus de donner à son peuple tout ce que Jésus lui a donné. La parole de Dieu, c'est comme un vin généreux. Et ce qui est très beau, c'est de voir que Marie, dans sa demande, à Jésus, hâte l'heure de Jésus, et que Jésus comprend la demande de Marie plus profondément encore que Marie. C'est toujours ce qui se passe quand on prie Jésus, quand on lui demande quelque chose. Il comprend notre demande d'une manière beaucoup plus profonde que nous. Quand Marie demande le vin, comprenez que pour Jésus, c'est pas seulement la parole. C'est le vin nouveau. Et ce vin nouveau, c'est le sang de Jésus. Alors on comprend très bien cette sorte d'effroi de la part de Jésus. L'heure de Jésus, c'est lorsqu'il donnera son sang. Et Marie hâte l'heure de Jésus pour préparer cela. Et c'est pour ça que Cana prépare le mystère de la croix. Et on comprend alors comment, dans les écrits johanniques, trois fois, on regarde Marie comme la femme. Cana, la croix, l'Apocalypse. Et ce sera intéressant de voir les trois fois ce regard de Jésus, de l'Esprit Saint, sur Marie. Elle est la femme. C'est-à-dire qu'elle est la créature nouvelle qui va coopérer avec Jésus, le nouvel Adam. Et ça a été très vite affirmé dans l'Église, Saint Justin. Donc tout à fait au début de l'Église. Commentant l'Évangile de Saint Jean n'a pas hésité à dire ça. Jésus est le nouvel Adam, et Marie est la nouvelle Ève. Vous voyez, le regard d'Adam sur Ève, le regard de Jésus sur Marie. Femme, que me demandes-tu? Os de mes os, de mes os, chair de ma chair. C'est Adam qui regarde Ève. Et on peut dire que, en lui disant femme, Jésus veut montrer que, de fait, il vient reprendre tout, radicalement. Et cette reprise, c'est à partir mari, c'est une reprise dans l'amour, et dans cet amour filial, où il reprend tout. Marie a tout reçu de Jésus, à la croix. Et Jésus, en l'appelant femme, aussi quelle est la nouvelle femme qui reçoit tout Jésus. Quant au miracle, il est facile à comprendre, mais il faut comprendre que Saint Jean ne dit pas premier miracle, il dit premier signe, pour que nous comprenions que tous les miracles du Christ sont des signes. Aide à entrer dans le mystère, ce qui nous aide à aller plus loin que l'aspect matériel de la chose et à comprendre que tous les miracles du Christ ont une signification pour notre foi, qu'ils annoncent le mystère, qu'ils proclament le mystère. Alors je vais voir tout de suite avec vous le second moment de la vie apostolique de Jésus à la croix, où Jésus, du haut de la croix, regarde Marie. Vous connaissez bien le texte, Saint Jean, dans son évangile. Verset 25. Chapitre 19, verset 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie la Magdalène. Jésus donc, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il préférait, dit à sa mère: femme, voilà ton fils. Ensuite, il dit aux disciples: voilà ta mère. Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. C'est la seconde alliance. Et ceci, c'est important de se le rappeler. La première alliance a été réalisée le jour de Pâques, dans la nouvelle Pâques. La première Pâques était déjà une alliance de Dieu avec son peuple, en le sauvant de la tyrannie du Pharaon. Et Jésus va renouveler, reprendre cette première Pâque, cette première alliance, dans la nouvelle Pâque de son corps, en son corps. Tout le mystère de la scène, c'est la grande alliance, une alliance de salut, une alliance d'amour. C'est non seulement le mystère de l'agneau pascal, mais c'est le mystère du pain transformé dans le corps du Christ. C'est le mystère de l'Eucharistie, où Jésus réalise cette nouvelle alliance d'amour dans son corps et son sang. Et ça, c'est quand même le grand testament du Christ pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour celui qu'on aime. Et Jésus Jésus donne sa vie pour nous. Il donne sa vie pour tous ceux qui veulent la recevoir. La première alliance chrétienne, c'est vraiment le mystère de l'Eucharistie. Et cette alliance est réalisée même en présence de Judas, le traître. Je crois, pour te faire comprendre le caractère très universel, c'est pour tous, c'est pour le monde entier que Jésus donne sa vie, offre son corps en nourriture et son sang comme breuvage. C'est sûr, c'est pour ceux qui ont reçu le baptême en premier lieu, mais à travers eux, c'est pour le monde entier. La seconde alliance, c'est l'alliance faite avec Marie à la croix. Et la troisième alliance, c'est l'alliance faite avec Pierre, après la résurrection. Il ne faut jamais séparer ces trois alliances. C'est ça qui fait comprendre le mystère de l'Église. Le mystère de l'Église, c'est notre lien avec Jésus. C'est notre lien d'amour avec le Christ, c'est notre lien de vie avec le Christ, où on est les membres du Christ, où on est choisi comme l'époux choisit son épouse, où on est aussi les rameaux qui portent du fruit. Je crois qu'il faut jamais oublier, du reste Vatican II nous le rappelle, ce mystère de l'Église, cette union si forte avec le Christ, celle qui nous est donnée dans le corps mystique, celle qui nous est donnée dans cette alliance de l'époux et de l'épouse, celle qui nous est donnée dans le chapitre 17 dans Saint Jean. Dans le mystère de la vigne. Et chaque fois, on assiste sur un aspect particulier d'union avec Jésus. Vous voyez, si on a le temps, on y reviendra pour comprendre le lien de Marie avec Jésus. Il faut toujours prendre ces trois comparaisons, ces trois analogies. Il ne faut surtout pas n'en prendre qu'une. Parce que chacune a quelque chose à dire. Et je crois que ce sont les trois grandes comparaisons. Et ces trois comparaisons vont avec les trois alliances. Puisque chaque alliance exprime un lien de Jésus avec chacun d'entre nous. Avec l'Église. L'alliance dans l'Eucharistie. C'est Jésus qui se donne à nous comme pain pour nous faire comprendre l'union substantielle qui existe entre Jésus et nous. Puisque quand on se nourrit du pain, quand on boit le vin, on assimile cette nourriture, cette boisson, pour que ça devienne un avec nous. C'est le propre de la nourriture. La nourriture réalise une union substantielle avec le vivant. Et la nourriture est relative au vivant pour réaliser cette union substantielle. Dans le corps mystique, on monte cette union substantielle. Cette union substantielle entre Jésus et nous, c'est la même vie. C'est la grâce qui fait qu'on vit la même vie, substantiellement la même vie. Je crois qu'on peut dire que l'alliance avec Marie, c'est une alliance de surabondance. D'une certaine manière, tout est donné avec l'Eucharistie. Et là, on voit bien le mystère de Marie. Mystère de surabondance dans l'amour. Un mystère de liberté dans l'amour. C'est l'alliance de l'époux et de l'épouse. Marie, elle est l'épouse par excellence. C'est elle qui vit le mystère. L'alliance de l'époux et de l'épouse. Et enfin, l'alliance avec Pierre fait paître mes brebis. C'est le mystère de la vigne. Le Père coupe les branches pour qu'il y ait une surabondance de fruits. Et l'alliance avec Pierre, c'est pour que nous puissions porter des fruits, pour que nous puissions vivre de cette taille du Père dans l'obéissance. Aujourd'hui, spécialement, nous voyons bien ce que c'est que l'alliance avec Pierre. Quand on voit combien rejette ce que le pape peut nous enseigner, ce que le pape peut nous donner, on refuse l'obéissance. C'est l'obéissance, l'alliance avec Pierre. Et c'est par l'obéissance qu'on porte des fruits. Tout ce qui est fait en dehors de l'obéissance ne porte pas de fruits. Ce sont des branches mortes qui ne portent plus de fruits. Elles ne sont plus bonnes qu'à une seule chose, à être coupées et brûlées. C'est dit hein, dans le chapitre 17 de Saint Jean. Oui, c'est très important de voir ces aspects divers qui nous aident à entrer dans le mystère de Marie. Le mystère de Marie ne doit pas se séparer du mystère de l'Église. Le mystère de Marie ne doit pas se séparer du mystère de l'Eucharistie. Le mystère de Marie ne doit pas se séparer du mystère de Pierre. Mais le mystère de Marie apporte quelque chose d'unique. Et d'une certaine manière, le sommet. Oui, c'est curieux que c'est intermédiaire. L'Eucharistie, Marie, Pierre. C'est comme ça que c'est donné dans Saint Jean. Pour nous faire comprendre que c'est par Marie que le mystère de l'Eucharistie prend toute sa valeur. C'est par Marie que le mystère de Pierre peut être vécu. Tous ceux qui rejettent Marie rejettent Pierre. Aujourd'hui. Faites le petit sondage, vous le verrez tout de suite. C'est Marie qui nous apprend à vivre du mystère de Pierre. Et quand on rejette Marie, très vite, on rejette l'Eucharistie. On diminue. Elle est l'intermédiaire, tout le temps l'intermédiaire. C'est extraordinaire, ça. C'est elle qui fait vivre des deux autres alliances. Alors, essayons d'entrer dans ce qui nous est montré ici. C'est Jésus lui-même dans son dernier regard sur Marie qui lui dit « Femme, alors est-ce que ce regard du Christ sur Marie qui lui dit « Femme » du haut de la croix, ça c'est merveilleux de voir que Jésus du haut de la croix regarde Marie comme femme. Je vous disais tout à l'heure, la femme c'est celle qui porte la misère de son peuple. La femme c'est aussi celle Tout est autour et tout manifeste. canon. Idem velle. C'est pour ça que Jésus dit femme. Le même vouloir entre l'épouse et l'époux. Le même amour. Tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à toi est à moi. Et Marie est fidèle. Alors elle vit tout ce que le mystère de tout ce que Jésus vit à la croix, Marie le vit. Jésus à la croix offre sa vie, il n'y a pas de plus grand signe d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus offre sa vie terrestre. Cette vie qui est la vie la plus précieuse, la plus grande qui ait existé sur cette terre. Et Jésus l'offre. Il accepte de disparaître, de mourir, et de mourir de cette manière ignominieuse, dans ce lieu infâme, fétide. Puisque c'était le lieu où l'on crucifiait les esclaves, et on ne les enterrait pas, les esclaves, hein, faut pas l'oublier. On laissait les oiseaux de proie les déchiqueter. Et donc c'était un lieu fétide. Faut pas l'oublier. Les pères de l'Église se disent. Et saint Thomas l'a retenu, ça. Donc un lieu irrespirable, vous voyez. Faut saisir ça. Passer là, on n'y demeurait pas. C'est le climat du mystère de ce lieu du Golgotha en dehors de la ville. Parce que Jésus là accepte de porter toute l'iniquité du monde et de la porter pour tous les hommes. Il accepte d'être présent au Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pour vivre vraiment dans son âme toutes les conséquences du péché. Or, la conséquence première du péché, c'est cette séparation à l'égard de Dieu. C'est même cette peur à l'égard de Dieu. Voyez, après le premier péché d'Adam, Adam se cache quand il entend les pas de Dieu dans l'Éden, venir auprès de lui. Il se cache derrière un arbre, croyant que ça empêche Dieu de le voir. C'est un symbolisme très grossier, mais qui montre bien ce que c'est. Il a tellement peur de Dieu. Jésus l'a vécu cela dans le mystère de la croix. Ce qu'il a porté toutes les conséquences du péché. Cette conséquence terrible d'être coupable, responsable de tous les péchés des hommes. Il a accepté d'être là, le coupable, qui portait toute l'iniquité de l'humanité. Il portait cela dans une limpidité de cœur parfaite, dans une sensibilité plus grande que la sensibilité de chacun d'entre nous, dans une capacité d'aimer bien plus grande, puisqu'il y avait en lui cette plénitude de grâce, et qu'il était fils de Dieu comme personne. Et donc, il était soutenu par une force divine qui lui permettait de souffrir plus que n'importe quel autre homme. On souffre quand il y a connaissance de la souffrance, quand il y a connaissance d'augmenter la douleur. Et Marie vit tout son mystère de souffrance dans la foi, l'espérance et l'amour. Il faut, je crois, saisir très profondément cette unité qu'y a-t-il entre toi et moi. Unité dans la joie, unité dans la souffrance, unité dans la tristesse, unité dans le fait que Marie, unie à Jésus, se présente au Père du Christ. Elle vivait ce mystère de la croix du Christ comme tous ceux qui, à sa suite, ont su et savaient très bien que cette iniquité ne pouvait être vécue que dans cette unité d'amour avec Jésus. Et Marie l'a vécu plus. Il n'y a pas une même soupe, il n'y a pas la moindre égratignure. Marie n'a pas subi la flagellation. Marie n'a pas subi la crucifixion. Pour être plus consciente au plus intime de son âme, de l'horreur du péché que Jésus porte, dont Jésus porte tout le poids. Jésus peut lui s'ouvrir physiquement parce qu'il y a en lui cette plénitude de grâce et qu'il est fils de Dieu. Et donc il y a une capacité en lui de vie qui est unique. Marie est une créature. Et pour être plus unie à Jésus divinement, il faut que humainement, dans sa sensibilité, dans sa chair, dans son cœur sensible, il n'y ait aucune souffrance physique pour que toutes les souffrances soient intérieures. Il y a une conscience plus grande. C'est le grand mystère de la compassion, ça. C'est le grand mystère de l'épouse qui fait la même œuvre que l'époux et qui ne fait qu'un avec lui, dans son cœur, dans son âme. On a tous vu ça dans notre vie. Hein. Voyez, hein. Chaque fois que je pense au mystère de la compassion, je pense à ce que j'ai vu une fois dans un hôpital à Lyon. C'était un jeune officier de 33 ans, je crois. Il avait l'âge du Christ, ou 34, c'était. Il mourait d'un cancer des os. Je l'ai vu tout à fait à la fin. On m'avait supplié de passer. Il y avait auprès de lui sa mère et son épouse. Il faisait très très chaud dans cet hôpital. Alors il était extrêmement peu vêtu et on voyait son corps squelettique et abîmé par le cancer des os. Et ce grand silence de souffrance et en même temps d'offrande. Il y avait quelque chose de très particulier que je n'ai jamais senti avec autant de force que là. Parce que ils étaient profondément chrétiens. C'était bien plus qu'une résignation. Il y avait une joie, mais cachée, vous savez, comme quand le feu est couvert de cendres. peu, était un petit peu loin, pour laisser l'épouse seule, tout près. Marie, au pied de la croix. C'est ça. Mais d'une façon encore infiniment plus grande, ça ce n'est qu'une image. Mais c'est une image vraie. C'est une icône vraie. Marie portée dans sa foi, dans son espérance et dans sa charité, dans la plénitude.